RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Cotterêts ce soir au terme de la 11e étape du Tour de France, deuxième étape pyrénéenne mais qui a livré moins de vérité que celle d'hier. Elle arrivait à la Pierre Saint-Martin aujourd'hui pour le classement général, rien n'a bougé. On va évidemment y revenir dans quelques minutes avec toute la Dream Team qui est rassemblée à mes côtés. J'ai nommé Thierry Bourguignon, Cyril Guimard et Luc Leblanc. Mais avant cela, deuxième édition d'RMC Sport avec l'inénarrable Martial Fernandez qui est là.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Un air de déjà-vu aujourd'hui sur le Tour avec la victoire du Polonais Rafael Majka, un coutumier du genre. Majka avait gagné deux étapes l'année dernière. Cette fois, il s'impose à Cotterêts après avoir lâché ses compagnons d'échappée dans le Tourmalet. Au classement général, pas de changement. Les favoris sont arrivés groupés, sauf Vincenzo Nibali qui a concédé 50 secondes sur Chris Froome. Froome, maillot jaune serein, mais qui ne veut pas trop le montrer.
C'était une étape vraiment dure aujourd'hui avec la chaleur. Plus de 35 degrés, tout le monde sont fatigués. Il y a beaucoup de monde qui sont forts, Quintana, Valverde, TJ Van Garderen, Tony Galopin, il marche bien, mais on verra.
Voilà, Chris Froome avec Pierre-Yves Leroux, bien loin de Froome. Le tour galère continue pour Thibaut Pinot aujourd'hui. Il a tenté de s'échapper en début d'étape avant de se résigner. Pinot termine à plus de 21 minutes de Majka et a du mal à comprendre pourquoi.
J'ai mis le peu de force que j'avais en début d'étape pour essayer de prendre l'échappée. J'étais dans le coup d'avant avant que ça sorte et puis voilà, mais de toute façon j'ai pas de regret. Quand je vois la suite de l'étape, j'avais pas de jambes encore aujourd'hui quoi. Je suis très loin de mon niveau, j'arrive pas à monter dans les tours, donc voilà, j'essaie de comprendre et bien sûr que j'y crois, sinon je serais pas là, mais voilà, la tête des fois ça suffit pas non plus, donc j'ai pas de jambes, j'ai beau avoir la meilleure tête, le meilleur mental possible, si la jambe si je peux pas être à plus de 300 watts, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Et demain pour Thibaut Pinot et pour tous les autres, ce sera du très lourd. 12e étape, 195 km entre Lannemezan et le plateau de Baye, avec deux cols de première catégorie et la montée hors catégorie vers le plateau de Baye.
RMC France Olympique.
Un Français dans le coup au championnat du monde d'escrime, Gauthier Grumier, est en finale à l'épée à Moscou où on retrouve Rodolphe Massé. Rodolphe, le parcours parfait pour l'instant pour le Français.
Il tient son rang, Gauthier Grumier, avec autorité. C'est le numéro un mondial de cette discipline de l'épée masculine. C'est le champion d'Europe en titre depuis le mois de juin dernier. Il va vivre son troisième podium mondial, mais pour le moment, il n'a jamais goûté l'or planétaire. Gauthier Grumier avait perdu en finale, par exemple, en 2010 au Grand Palais à Paris. Et là, aujourd'hui, il a un boulevard devant lui après avoir éliminé notamment le champion olympique en titre en quart de finale en se faisant une frayeur. Là, en demi-finale, il s'est imposé avec autorité. 15 touches à 11 face au Danois Jorgensen. En finale, il va retrouver un vétéran, le Hongrois Imre, 40 ans, qui avait arrêté sa carrière, qui a repris et qui se retrouve en finale. Mais Gauthier Grumier a toutes les armes pour décrocher la première médaille d'or de ces Mondiaux 2015 pour l'équipe de France.
Et une finale qui sera à suivre sur RMC, partenaire de l'équipe de France Olympique à 19h20. Merci Rodolphe. 8,5 millions d'euros, c'est ce que proposerait le PSG à Tottenham pour le transfert de Benjamin Stambouli, selon la presse anglaise. Les Parisiens, eux, sont partis aux États-Unis aujourd'hui pour un stage de 2 semaines et demie. Qui jouera en simple face à la Grande-Bretagne en quart de finale de Coupe Davis sur le gazon du Queen's? Réponse demain lors du tirage au sort des matchs. Au choix, Gasquet, Simon, Tsonga et pourquoi pas Mahu. Quels qu'ils soient les titulaires, en simple devront défier Andy Murray sur herbe et la tâche s'annonce compliquée d'après Joe Wilfried Tsonga.
Aujourd'hui sur gazon, ça reste un des meilleurs au monde. Il l'a prouvé encore cette saison. Il a gagné le Queen's qui reste un tournoi très important avant Wimbledon. Il a fait une demi-finale à Wimbledon contre Roger qui était en grande forme. Donc aujourd'hui, clairement, il reste très dangereux.
Voilà, Joe Wilfried Tsonga avec Eric Salio. Il est 19h10 sur RMC. L'intégral tour avec Christophe Cessieux en direct de Cotterêts.
Et oui, Martial, nous sommes là au sommet, à Cotterêts, enfin plus exactement dans la vallée qui descend du Tourmalet avec donc cette 11e étape qui s'est achevée tout à l'heure avec la victoire de Rafał Majka. On va y revenir évidemment. Une étape pour rien, pourrait-on dire, puisque pour le classement général, rien n'a changé. Chris Froome n'a pas été attaqué par ses rivaux qui ont peut-être lâché, qui ont peut-être abdiqué. Ce sera le thème de notre premier débat dans un instant. Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Bonsoir Thierry. Bonsoir.
Alors cette étape messieurs, donc remportée par Rafał Majka, une échappée au long cours qui cette fois-ci est allée au bout. Majka qui s'impose avec autorité, lui qui s'est échappé, qui s'est extirpé du groupe d'échappés Cyril dans la montée vers le Tourmalet. Bon, c'est un habitué de ce genre de choses, hein. Majka, on rappelle, vainqueur d'étape sur les routes du Tour l'an dernier à deux reprises, et en plus il avait porté et ramené à Paris le maillot de meilleur grimpeur, un beau coureur Majka, et en plus son leader Contador étant un peu à la rue, on lui a laissé carte blanche aujourd'hui pour s'extirper du peloton, leader, pour s'extirper de l'échappée.
Son leader étant à la rue, eh bien il a pris la voie royale sur l'autoroute de Cotteret. Voilà, et il a fait le même numéro que l'an dernier. L'an dernier, rappelez-vous, on ne l'avait pas vu, sauf à rouler des bouts droits pour Contador, ce qui est son rôle. Il a un rôle d'équipier. Et puis Contador abandonne sur chute. Et derrière, eh bien, il se retrouve donc sans leader. Et à partir de ce moment-là, il saisit sa chance. Il sort dans les échappées et il va gagner deux grandes étapes de montagne. Et par voie de conséquence, il vient à Paris avec le maillot à pois. Et c'est là où je me pose la question, parce qu'il y a une forme de similitude par rapport à l'an dernier. Aujourd'hui, il repart dans un coup de loin, ce qui semblerait dire que tout simplement, Contador a ouvert les portes, c'est-à-dire qu'il ne se considère plus comme un véritable leader et qu'il n'a pas l'intention de passer à l'offensive. Et à ce moment-là, il libère de ses tâches Majka, qui sort et puis qui va chercher les points en haut du Tourmalet et qui va aussi chercher la victoire d'étape.
Ouais.
Donc est-ce que ça ne veut pas dire que Contador, c'est fini, il n'y croit plus? Mais je vais revenir à une phrase de Contador, c'était hier, où il a dit à la fin de l'interview, il va falloir prendre une décision. Est-ce que la décision n'a pas tout simplement été prise que Contador filerait à l'anglaise?
Mais
j'ai quand même le droit de le dire.
Mais c'est ce que je pense.
Et qu'il partirait tout simplement préparer la Vuelta.
Il a d'autres ambitions. Aujourd'hui, il faut bien le dire que la victoire sur le Tour, elle a pris une belle claque dans la figure avec l'étape d'hier. Donc, pourquoi pas, pour sauver le Tour de l'équipe, il envoie ses Gregario aller gagner les étapes.
Il savait qu'aujourd'hui, Thierry, en plus, il n'y aurait pas de bagarre, Contador. Ils s'en doutaient.
C'était trop loin de l'arrivée,
de la physionomie de l'étape.
Oui, derrière, c'était très compliqué, mais je peux te dire franchement, quand tu vois l'étape d'aujourd'hui, tu te demandes comment ils vont-ils faire pour le mettre en difficulté. Mettre en difficulté la Sky, parce que il y a quand même Thomas et Richie Porte qui sont d'excellents lieutenants, voire même des leaders. Ils sont plus costauds que les leaders adversaires.
Alors, une étape pour rien, Lucho. Tout à l'heure, tu t'es un petit peu énervé dans le direct. Tu ne comprenais pas la décision, la non-décision finalement des adversaires de Froome.
Énervé,
un petit peu agacé en tous les cas par le comportement.
Tu vas passer pour un nerveux là.
Non, t'es pas nerveux du tout. Mais en tous les cas, surpris, désagréablement surpris par le comportement de tous les adversaires de Froome. Tu pensais vraiment, en regardant le profil de l'étape ce matin, qu'il pourrait se passer quelque chose dans cette 11e étape avec le Tourmalet qui était situé à combien, Cyril, à une quarantaine de kilomètres
d'arrivée? Non, même pas le sommet, c'est pas 40 kilomètres.
C'est 30 et quelques kilomètres de l'arrivée. Il y a la descente et puis la remontée ici. Donc vous avez 20 et 10, oui, à peu près une trentaine. 33, je suis même pas ici.
Donc oui, est-ce que tu y croyais? Tu pensais qu'il se passerait quelque chose?
Il y avait un terrain de jeu aujourd'hui pour pouvoir réaliser des choses et essayer de mettre en difficulté Froome. De toute façon, si, mais Thierry, tu vas pas me couper.
Non,
laisse-moi continuer. Après, tu pourras me parler. À partir du moment où tu as un col comme le Tourmalet et le sommet, t'as environ même pas 30 km de l'arrivée.
41, exactement.
Ouais, t'as toute la descente et tout, et puis après la montée sur Cotteret. Bon, écoute, si tu attaques pas aujourd'hui, si tu essayes pas de tenter quelque chose, si t'essayes pas de voir, et de toute façon, même, je vais te dire, si le sommet du Tourmalet est à 30 et quelques kilomètres de l'arrivée, 35 ou 40 comme tu veux, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas 5 km près. Mais à partir du moment où les adversaires de Froome, s'ils commencent à le tester un petit peu, et admettons que Froome soit voit pas dans un bon jour. Comment peut-il le savoir? Comment peuvent-ils le savoir si Froome est bien ou pas? Ah, tu peux toujours tenter quelque chose. C'est pas parce que tu vas faire.
Essayer un tout petit peu.
Ils ont roulé, ils sont limités. Oui, mais.
Mais
je te parle
accéléré.
Pas d'Astana, je te parle de Quintana, moi. Astana, ils sont à la rue, là, avec Nibali qui a sauté dans le final. Mais bon, Quintana aurait très bien pu attaquer au pied du Tourmalet pour tester Froome. Et admettons que Froome, il soit mal au pied du Tourmalet. Il soit dans un mauvais jour. Comment ils peuvent savoir si Froome est bien ou pas? Si tu testes pas Froome à un moment donné dans la journée, même si le sommet, t'as la longue descente et Cotteray, c'était pas une énorme montée, mais à un moment donné, il faut peut-être tester.
Le vélo romantique de Luc Leblanc.
Mais il faut passer avec combien d'avance sur le sommet de Tourmalet pour pouvoir gagner sur une équipe.
C'est pas grave, Thierry,
c'est grave. Parce que tout ce que tu mets aujourd'hui, tu ne le mettras pas demain.
Bon, bah alors on va attendre
demain, il y a de quoi faire, on va attendre
les Champs-Elysées.
Non, Lucho, demain, il y a de quoi faire. Et c'est beaucoup plus judicieux d'essayer de le mettre en difficulté demain qu'aujourd'hui. C'était
on verra dans le premier col demain.
Oui, moi j'ai peu d'espoir.
Ce sera sans doute pas dans le premier col, ce sera peut-être dans le dernier col. La montée vers le plateau de Baye classé hors catégorie. On en parlera tout à l'heure. En tous les cas, si Froome a été attaqué, si messieurs, il a été attaqué par Valverde qui lui a repris 2 secondes quand même sur la ligne d'arrivée. Valverde est arrivé 8e de l'étape.
Et par Tony Galopin
qui lui a été repris par la garde rapprochée de Chris Froome. Donc Valverde est 8e de l'étape, 9e Froome à 5 minutes 21 et dans sa roue Contador, Quintana, Van Garderen, Roland ou encore Galopin qui s'est encore une fois accroché. Barguil termine 21e à 5,53. Il s'est accroché lui aussi avec une descente du Tourmalet vertigineuse pour le jeune coureur breton. Et puis le 4e fantastique ou pseudo-fantastique, Nibali termine 23e à 6,11. Il a tenté lui de faire rouler ses équipiers, mais du coup il a payé l'addition une nouvelle fois. Nibali qui n'est que l'ombre de lui-même. Les Français sont plus loin, on en parlera tout à l'heure. Bardet 30e à 13,50. Perrault 84e à 21,44 et Pinot 87e dans le même temps. Alors les adversaires de Froome ont-ils abdiqué? On a posé la question au directeur sportif de la Sky, Nicolas Portal, qui semblait quand même plutôt serein ce soir.
On attendait, enfin on a passé une journée de truc du mètre tranquille. On a quand même roulé toute la journée, 10 km, non, enfin, il me semble que l'échappée est partie assez tard. Ça roulait plein pot, mais bon, après on a dû rouler tout le reste de la journée. Et ça coûte beaucoup d'énergie, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses attaques, en tout cas, comme on pouvait peut-être s'y attendre, dans le Tourmalet. Quand on a vu l'échappée avec un Astana, un saxo devant, on s'est dit, ça peut servir de lampe de rassement. Après, je pense que tout le monde était super fatigué de l'étape d'hier. Demain, je pense que ça va être très, 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 très dur. C'est la deuxième journée. Enfin, après cette deuxième journée, les routes sont granuleuses, ça pèse, il va faire très chaud. C'est les Pyrénées ariégeoises, c'est horrible.
Voilà, les Pyrénées ariégeoises, c'est horrible, nous dit Nicolas Portal. Alors, ont-ils abdiqué vraiment les adversaires de Froome et finalement le seul véritable adversaire qui lui reste encore, mis à part TJ Van Garderen, mais bon, c'est en haute montagne, demain normalement ça devrait être compliqué. Le seul grand adversaire qu'il a, c'est Nairo Quintana. Que pense-t-il de ce qui s'est passé aujourd'hui et qu'envisage-t-il dans les jours à venir, Nairo Quintana?
Je me suis senti bien, l'équipe était en forme également, il ne s'est rien passé, c'est sûr, mais c'est pareil pour tout le monde. Demain, ça sera une étape très difficile, on verra mes sensations et celles de mes rivaux. C'est sûr que Froome est très fort, il va falloir trouver des tactiques pour essayer de reprendre du temps. En cas de podium, je serai content et satisfait, mais mon rêve de maillot jaune est toujours en moi, je vais continuer de lutter.
Le rêve est toujours en Nairo Quintana, le rêve est-il toujours en vous, mon cher druide?
Oui, je vais essayer de rêver. Mais je peux pas dire qu'il soit véritablement ancré en moi, mais 3 minutes pour Quintana, la valise est déjà bien chargée, quoi. Et le problème, c'est qu'on voit pas comment et où Froome pourrait se trouver en difficulté. Et en plus, il a 2 chiens de garde, là, qui sont restés avec lui toute la journée.
Et en sachant que, excuse-moi de te couper, mais
Richie Porte, je t'en prie, c'est une habitude.
Mais Richie Porte, 50 km, les 50 derniers kilomètres, il fait tout seul. Ben, il est facile.
Ah oui, oui, non, il a 2 chiens de garde, là, ça va très bien, quoi. Donc, je vois pas où on peut, je vois pas où on peut le mettre en difficulté. Alors, effectivement, dans les 10 derniers kilomètres de l'ascension demain, le problème, c'est que si tu mets une mine et que tu le sors pas, comme dirait l'autre, il te met une claque à droite, une claque à gauche et un coup de pied aux fesses, quoi.
Oui, demain, on en parlera tout à l'heure, mais demain, c'est une étape clé pour la suite du tour. Si effectivement Froome gagne encore et bat une nouvelle fois ses adversaires, on pourra dire que le tour est définitivement plié. Simon est avec nous au 32-16, qui est un passionné du Tour de France. Bonsoir Simon.
Bonsoir la Dream Team.
Bon. Salut Simon.
Tu as vu que le druide est quand même un peu sceptique sur la suite du tour et sur les attaques des uns et des autres.
Je le rejoins un petit peu et je comprends aussi Lucho qui aimerait que les équipes soient un peu plus offensives, je dirais, par rapport à Froome. Mais je pense que tout le monde a compris et le druide l'a bien résumé. 3 minutes, les carottes sont cuites. On va pas lui souhaiter une chute ou alors une défaillance à la Floylandis peut-être comme il y a quelques années. Mais moi aussi, je pense que le tour est fini. On a mis une grande offensive de Movistar et un jour sans de Froome, je vois pas comment la fusion pour échanger. Hormis peut-être en conférence de presse où on peut le faire abdiquer, je vois pas aussi qu'on peut faire abdiquer Froome, quoi.
Très bien, donc scepticisme un peu de la part de tous les passionnés de vélo et du Tour de France. Bon, évidemment, on compte beaucoup sur l'étape de demain qui nous livrera des enseignements supplémentaires. Merci beaucoup Simon. On va s'interrompre quelques instants, messieurs, nous partons pour Moscou avec les championnats du monde d'escrime, Rodolphe Massé, et donc un Français en finale pour une médaille d'or, on l'espère. Hier, on est passé pas loin avec Cécilia Berder, mais là, Gauthier Grumier, à l'épée, il faut l'or, quoi.
Il faut l'or, il va l'avoir, l'or. Gauthier Grumier opposé au vétéran hongrois Imre, 41 ans à la fin de l'année. Gauthier Grumier qui mène 2-1 dans cette finale de l'épée individuelle. C'est un duel de gauchers. Gauthier Grumier, il a l'avantage de l'allonge. Il a la jeunesse évidemment pour lui. Et puis c'est un moment qu'il attend. Il court après ce premier titre mondial depuis des années. Une double touche à l'instant. 3-2 pour Gauthier Grumier. On rappelle, Christophe, c'est le premier à 15 touches qui sera sacré champion du monde. Ou alors celui qui sera en tête à l'issue des 9 minutes. Pour le moment, il y a à peine une minute de passer dans cette finale. 3-2 pour le Français Gauthier Grumier.
Merci Rodolphe. À tout à l'heure, on continue de suivre en fil rouge évidemment cette finale à Moscou, Gauthier Grumier. Donc on parlera tout à l'heure de l'étape de demain, mais si on va revenir quand même sur l'étape d'hier et toutes les conséquences qu'elle a eues avec les soupçons qui n'ont pas manqué de naître après la prestation de Chris Froome. Georges Quirino est avec nous. Georges, tu as rencontré ce matin Dave Braceford, le manager de la formation Sky.
On a vu tout Sky aujourd'hui.
Voilà, tous les Sky.
On les a moins vu qu'hier.
Nicolas, sur l'étape un peu moins, mais pas mal quand même. Dave Braceford, évidemment, on a beaucoup parlé de ses motorhomes, dont Cyril nous dit qu'il pourrait cacher des choses. Alors, tu as parlé ce matin avec Dave Braceford. Qu'a-t-il dit sur ses motorhomes?
Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que hier, Chris Froome est resté de marbre et assez, on va dire normal face à la presse quand toutes les questions de dopage lui ont été posées. J'ai beaucoup discuté avec des membres de l'équipe Sky. Hier, quand il est rentré à l'hôtel notamment, il est resté normal devant ses coéquipiers en disant que tout allait bien, mais visiblement ça n'allait pas du tout pour Chris Froome, qui quand même est touché par tout ce qui se dit, parce que Chris Froome voit tout ce qui se dit. Chris Froome est sur les réseaux sociaux par exemple, il est également sur internet, il voit ce que dit Cyril Guimard par exemple. L'équipe Sky a bien lu ce qu'a dit Cyril Guimard, notamment sur les chambres hypoxiques qui nous font croire qu'on est en altitude, donc pour stimuler les gobelets rouges. Ce qu'on nous dit chez Sky, c'est qu'on est touché par ce qui se dit, et le fait qu'on remette en cause l'honnêteté sans preuve. Dave Braceford sur les motorhomes ce matin, est venu s'expliquer. Il a dit: moi je suis là pour répondre à toutes les questions, venez poser des questions, moi je réponds. Dave Braceford à propos des motorhomes, il a été très clair ce matin, on l'écoute.
Venez voir.
Mais je mets un peu.
Ouais, bien sûr. Bien sûr, venez pour un test d'été.
Non, mais
il n'y a pas de problème, venez voir. Pas... Non, il n'y a rien, c'est venez voir, comme ça avec une caméra, venez me voir, on va vous montrer. Comme ça tout le public va voir, on va voir un test d'été de Yorkshire, et puis il n'y a rien à cacher. Hein.
Voilà, il nous invite même à boire une tasse de thé d'Al Braceford pour nous ouvrir donc le motorhome. Ça va être fait dans les prochains jours pour voir ce qu'il s'y passe. Apparemment, nous, les infos qu'on a, on a vu hier soir dans le motorhome Sky d'Al Braceford dormir à l'intérieur, et même Nicolas Portal, donc les coureurs, ne dormaient pas hier soir dans le motorhome Sky, c'est ce qu'on nous a dit. ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les critiques forcément qu'il y a eu hier, et ben la formation Sky s'est fait siffler aujourd'hui par plusieurs membres, par plusieurs spectateurs le long de la route. Moi, j'ai vu hein, des pancartes avec écrit Armstrong égale Froome, par exemple. On est un peu triste de la campagne anti-Sky dans la formation britannique. Et Nicolas Portal, que j'ai retrouvé après l'étape, le directeur sportif, qui était très touché par cette journée, bah, qui m'a parlé de ses sifflets. On l'écoute, Nicolas Portal.
On a eu l'habitude en 2013, on s'est fait siffler, on va dire, pendant les trois semaines. Là, on en a eu, bon, pas énormément, mais c'est vrai que quand on en a, c'est assez dur. On est tous des humains, on fait tous du sport pour gagner et on n'a rien contre le public, rien du tout. C'est vrai que quand on voit des gens qui huent, ça fait bon. On sent qu'il y a quand même plus que c'est humain dans ces cas de la haine. Donc on se dit, bah, vous trompez, mais qu'est-ce qu'on peut pas s'arrêter pour tenter de convaincre ces gens. Je pense que la meilleure chose à faire, nous, c'est de continuer à rouler. On est ouvert, vous savez, ça gâche un peu la saveur qu'on a. Et puis l'équipe aussi, elle a fait un super boulot, ce qu'on a pu faire hier, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, Nicolas Portal, le directeur sportif de la Sky, qui semble quand même assez touché, tout comme son leader Chris Froome. Cyril, une petite réaction à ce que tu viens d'entendre, et notamment à la proposition de Dale Boisford de venir visiter le Motorhome.
Oui, non, mais moi je ne suis pas surpris des réactions, mais lorsque on a évoqué et j'ai évoqué le problème hier, j'ai tout simplement repris ce qui se dit, j'ai presque envie de dire sur tous les zingues dans les cafés, dans la caravane, et le fait de poser les questions les a amenés tout simplement à donner des réponses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les bus, je ne sais pas, mais je n'ai jamais accusé la Sky de ce qu'un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux semblent vouloir me faire dire. J'ai seulement posé des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans les bus? Pourquoi? À quoi correspond un tel investissement? Je n'ai posé que des questions. On a un début de réponse, on n'a pas la réponse à toutes mes questions, mais bon, je ne vais pas demander des réponses à toutes mes questions, mais au moins ça a amené Dave Brailford à répondre et à dire, bah, écoutez, si vous voulez, venez dans les bus. Mm-hmm. Ça ne change pas le problème. Ça ne change pas le problème sur les parkings d'hôtels où quand ils ont squatté, les autres équipes se retrouvent, comme dirait l'autre, au fond du jardin.
Très bien.
Ce que je voudrais juste signaler, peut-être dans la communication de l'équipe Sky, on a vu beaucoup de Froome égale Armstrong. C'est vrai que dans la communication de l'équipe Sky, quand même, ils essaient d'apporter des réponses dans la communication. Dave Brailford nous invite à aller voir les motorhomes pour que l'on voit de nos yeux ce qui s'y passe. Il y a deux ans, souvenez-vous, la Sky avait donné les valeurs physiologiques de Chris Froome, notamment à Fred Grapp, le directeur de la performance de la FDJ. Fred Grapp avait dit, il n'y a rien d'anormal sur ce qu'il y a eu sur le Mont Ventoux. Froome nous dit, moi, quand je ne suis pas contrôlé, je le refais remarquer. J'ai demandé à ce qu'il y ait des contrôles inopinés de nuit. J'ai collaboré avec l'Union Civiliste Internationale. Ce que je veux dire, c'est on n'est pas là pour dire Chris Froome est tout blanc. On est là pour dire quand même que si on le compare à Lance Armstrong, quand les questions de dopage étaient posées, c'était vous êtes des jaloux, vous êtes des cyniques, c'est faux. Donc c'est vrai que dans l'attitude, en tous les cas, Chris Froome.
Comportement est différent, bien sûr.
Non mais il n'est pas enfermé dans le silence, voilà.
Non mais j'ai jamais dit qu'ils étaient enfermés dans le silence. Il y a moi, attendez, jusqu'à preuve du contraire, si vous trouvez un mot où j'ai accusé, vous me le sortez.
Très bien, on continuera ce débat évidemment parce qu'on en est qu'à la 11e étape, qu'il reste encore un peu de temps, et que si Chris fait une nouvelle performance demain, les soupçons ne vont pas manquer de naître à nouveau. Hein,
mais c'est comme ça dans mais le chez vélo. Sky, et ils sont bien conscients de ça d'ailleurs. Ouais, ils ont dit, on sait que l'histoire du vélo fait qu'on va nous poser ces questions.
Exactement. Voilà. Très bien, merci Georges d'être venu dans le petit camion.
Au revoir, Georges
qui a donc vu la course de près et qui a entendu les spectateurs siffler Chris Froome. S'il vous plaît, ne sifflez pas Chris Froome, ne sifflez pas les coureurs pour l'instant. Il est innocent.
Je voudrais ajouter
la preuve du contraire.
Je voudrais quand même ajouter deux choses qui me paraissent importantes.
Cyril, on va partir à Moscou. On ajoutera tout à l'heure.
Parce que tu sais qu'on a
une finale au championnat du monde d'escrime à l'épée avec Gauthier Grumier, Rodolphe Massé.
Il est en difficulté, le français Gauthier Grumier, dans cette finale de l'épée aux mondiaux d'escrime. Il est mené de deux touches par le vétéran hongrois Imre. 9-7, 9-8 à présent, parce que là, Gauthier Grumier vient de réussir une parade riposte. Il a écarté la pointe de son adversaire pour toucher le hongrois au flanc. Il a une touche de retard, le français. Il en a compté jusqu'à 3 de retard, juste après les 3 premières minutes. On est quasiment à la moitié du temps de cette finale. Et donc, Gauthier Grumier, il ne fait pas la course en tête. 9 touches à 8 pour le Hongrois Imre.
Merci Rodolphe, à tout à l'heure. Allez Gauthier Grumier pour une première médaille d'or au championnat du monde d'escrime. On lui souhaite évidemment. Nous on revient dans quelques instants, il est 19h29. Vous écoutez l'intégral tour sur RMC. Dans une petite minute, on va parler des Français. La Bérézina française qui se poursuit. Pinot, Bardet et Perrault ont-ils lâché dans la tête? Ils sont arrivés très loin aujourd'hui. À tout de suite.
RMC, intégral tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour en direct de Cotteret, on repart à Moscou quelques instants. Rodolphe, est-ce que ça va mieux pour Gauthier Grumier?
Non. Non, ça ne va pas mieux pour Gauthier Grumier. 13 touches à 10 pour le Hongrois Imre. Imre est à 2 touches du titre mondial. Et Gauthier Grumier, eh bien pour le moment, il ne trouve pas la solution parce que quand il arrive à toucher son adversaire, ce sont les deux lampes qui s'allument, ce sont des doubles touches. Et pour le moment, eh bien l'écart ne diminue pas. Même si là, Gauthier Grumier réussit à contrer son adversaire, il est à moins de 13 à 11 pour le Hongrois Imre.
Allez, on y croit, Rodolphe, pour cette première médaille d'or. C'est pas encore fini. Nous revenons donc ici en direct de Cotteret, toujours avec Luc, Cyril et Thierry pour s'intéresser à la performance des Français, ceux qu'on attendait énormément au départ de ce tour. Ils se nomment Thibaut Pinot, Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault. Pinot troisième du dernier tour, Bardet sixième, Perrault deuxième. Ils étaient là l'année dernière. On comptait énormément sur eux cette année. Mais alors, ce tour est un véritable calvaire pour les trois garçons. Je vous donnais tout à l'heure leur classement dans l'étape. Bardet termine 30e à 13 minutes 50. Perrault 84e à 21:44 dans le groupe Eto Perrault. Et même devant Thibaut Pinot qui lui termine à la 87e place. Thibaut Pinot qui a bien tenté de faire un petit truc au départ de l'étape. Mais décidément, les jambes ne sont pas là. Thibaut Pinot.
J'ai mis le peu de force que j'avais en début d'étape pour essayer de prendre l'échappée. J'étais dans le coup d'avant avant que ça sorte. Et puis voilà, mais de toute façon, j'ai pas de regret. Quand je vois la suite de l'étape, j'avais pas de jambes encore aujourd'hui, quoi. Je suis très loin de mon niveau. J'arrive pas à monter dans les tours. Donc, voilà, j'essaie de comprendre. Et, bien sûr que j'y crois. Sinon, je serais pas là. Mais, voilà, la tête, des fois, ça suffit pas non plus. Donc, j'ai pas de jambes. J'ai beau avoir la meilleure tête, le meilleur mental possible. Si la jambe, si je peux pas être à plus de 300 watts, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Voilà, Thibaut Pinot qui nous dit qu'il a plus de force, qu'il a plus rien dans les jambes, la tête continue de marcher. Cyril, toi tu nous disais un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est la tête qui va pas bien et qui fait que les jambes ne répondent pas en quelque sorte.
Oui, mais tu sais, lorsqu'on regarde les choses de l'extérieur, y a des choses que l'on comprend et puis on a suffisamment d'exemples par le passé. Quand les jambes vont pas, ou vous avez un problème de santé, où vous avez perdu la flamme, vous avez perdu la motivation. Essayer de se persuader que la tête va bien, c'est une chose. La réalité, comme il le dit, c'est qu'il est à 300 watts et qu'il peut pas monter au-dessus de 300 watts. Donc bien sûr, il est décroché. Mais on sent quand même une certaine tristesse dans son discours. Alors c'est vrai. Tout sportif qui se trouve dans cette phase-là essaye de trouver des points d'appui auxquels se raccrocher en disant « oui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ». Mais bon, quand la motivation n'y est plus...
Ah ouais, quand le cœur n'y est plus et quand la tête n'y est plus, c'est difficile. On retourne à Moscou, Rodolphe.
Oh, c'est irrespirable cette finale de l'EPEOM. 14 touches partout entre Gauthier Grumier et le Hongrois Imre. Il avait 3 touches de retard, Gauthier Grumier. Il a réussi à revenir et à égaliser à l'instant à 14 touches partout. Et la 15e, elle est pour le Hongrois Imre. Oh non, Gauthier Grumier qui a cherché à toucher au poignet son adversaire. Il n'a pas trouvé la cible, il me semble. Et à l'inverse, Imre, lui, il a touché le Français qui retire son masque. Il est effondré, Hugo Bry également. Parce que c'est vrai qu'il avait fait le plus dur en remontant ses 3 touches de retard. Il est maudit, Gauthier Grumier. À 31 ans, c'est sa deuxième défaite lors d'une finale mondiale après 2010 au Grand Palais à Paris. Aujourd'hui, il était numéro 1 mondial, c'était le favori, il avait fait la journée parfaite. Et bien voilà, il s'incline 15 à 14 face à un Hongrois de 40 ans, Imre, qui n'a pas volé son titre, loin de là. Mais l'énorme déception pour Gauthier Grumier. Autant hier, l'argent de Berder, c'était une magnifique surprise et une incroyable performance. Autant aujourd'hui, Gauthier Grumier, on l'espérait sur la plus haute marche du podium. Il devra se contenter de la deuxième marche et donc deuxième médaille d'argent pour l'équipe de France d'escrime.
Oui, petite déception, merci Rodolphe. Médaille d'argent, c'est déjà pas mal, mais c'est sûr que quand on est numéro 1 mondial, on espère l'or. Donc deux médailles d'argent pour l'équipe de France, mais il reste d'autres compétitions évidemment, et le par équipe à l'épée, ce sera samedi à suivre évidemment sur RMC. Docteur Bourgui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des explications de Thibaut Pinot? C'est la tête, c'est les jambes, qu'est-ce qui cloche pour Thibaut, qui était pas si mal dans le Tour de Suisse il y a peu de temps? Bon, certes, il n'y avait pas la même concurrence sur le Tour de Suisse, mais enfin, il a quand même remporté une magnifique étape de montagne. On espérait, il faut bien le dire, quand même plus de Thibaut cette année.
Oui, mais de toute façon, Cyril a raison, parce que de toute façon, la tête est liée aux jambes. Donc, comme il a fait que enchaîner déception, après des mauvais placements, mais quand on est mal placé, parce que on n'arrive pas à se placer, qu'on n'a pas les jambes pour être devant, et c'est une multitude de choses comme ça qu'il a traversé la première semaine. Après, il se dit bon, on n'est pas sur notre terrain, on va arriver sur notre terrain enfin, on va dire. Et la première étape de montagne, eh ben, c'est à Bérézina. Il a pas les jambes, il a plus rien dans le moteur. Donc, est-ce qu'il est arrivé peut-être un peu fatigué sur ce Tour de France aussi? Il a peut-être trop fait avec des ambitions démesurées et un programme peut-être un peu chargé, je ne sais pas, mais c'est sûrement.
Thierry, il faut quand même se rappeler que ça a été l'un des meilleurs parmi les prétendants au moins au podium sur le contre-la-montre là-bas au Pays-Bas.
Première étape, il marchait bien.
Il ne devait pas être trop fatigué.
Oui, mais il y a 13 km, Cyril. Il y a 13 km sur le Fourie.
Tu parles de 13 km, c'est significatif.
Non, mais la fatigue.
Se voit le plus quand t'es fatigué, c'est bien sur un effort. Bref.
Oui, mais comme tu l'as dit, de toute façon, déception après déception.
Au niveau des relances,
le moral n'y est plus, et puis en plus, ça s'enchaîne. Alors après, lui, il n'arrive pas à monter en watt. Il y en a qui montent en watt sans monter en pulsar. C'est encore mieux.
Lucho, est-ce que c'est une question de préparation? Est-ce que la préparation de Thibaut cette année n'a pas été adéquate? Ou même question en ce qui concerne la formation AG2R, qui a dû laisser deux équipiers en route aujourd'hui qui ont abandonné. Bardet, je vous le disais, à combien? À 13 minutes 50. Perrault, sur la deuxième marche du podium l'an dernier, est à 21 minutes 44. Et Villermoz aussi lâché. Bref, c'est la belle.
C'est difficile de donner une explication, Christophe. Hein. Soit c'est un problème de préparation, soit c'est un problème de santé. Comme le disait Pino tout à l'heure, je pense qu'il faut faire un bilan sanguin pour savoir éventuellement ce qui se passe. Alors s'il n'y a rien au niveau du bilan sanguin, alors c'est un problème de préparation. C'est un problème de préparation, peut-être préparation au niveau des courses, objectif des courses. Est-ce qu'ils ont choisi les meilleures méthodes pour au niveau des courses pour préparer le Tour de France?
Ils ont fait la même chose que l'an dernier.
Voilà, donc alors c'est peut-être un problème de santé. Et on en saura peut-être plus après si Thibaut Pinot, la Française des Jeux et même AG2R, la mondiale, nous donne peut-être nous ferons le bilan de certaines analyses peut-être qui voilà.
Mais AG2R, c'est pire. C'est pire AG2R.
Oui, sauf qu'il y a quand même une victoire d'étape quand même.
Oui,
pour AG2R,
non, mais ils ont sauvé leur tour.
Le tour est sauvé,
mais non, mais c'est pire. Le constat de l'équipe, il est catastrophique aujourd'hui parce qu'ils arrivaient dans les Pyrénées avec de grosses ambitions parce que et nous aussi on disait que c'était quand même la meilleure équipe pour essayer de déstabiliser, du moins mettre des hommes à l'avant en montagne. Bon, pas sur ce qu'on a vu sur cette première semaine, mais quand même. On voyait pas autant de dégâts et en plus les trois leaders sont pas très bien, sont loin d'être bien même. Et puis les équipiers, ils bâchent. Donc il y a franchement Bérézina.
On va écouter Jean-Christophe Perrault, ses explications tout à l'heure à l'issue de cette étape. On rappelle Perrault, 84e de l'étape à 21 minutes 44.
J'arrive pas à accompagner les meilleurs, je suis loin du niveau escompté. En plus, un gros coup de chaud là au pied du Tourmalet. Voilà. Les grosses chaleurs sont vraiment dures à passer derrière. On a eu beaucoup de chaud, mes apports au championnat de France. J'arrive pas à m'acclimater à ça. Il n'y avait plus trop rien à espérer. Quoi, donc le but était de rallier l'arrivée en espérant des jours meilleurs.
Voilà, en espérant des jours meilleurs, c'est vrai qu'il a fait très chaud sur la route du Tour. C'est pas du tout les mêmes conditions climatiques qu'on avait rencontrées l'année dernière, où c'était un Tour très humide et plutôt frisqué. Cette année, il fait très chaud depuis le départ.
Après, c'est vrai que quand il fait chaud, les coureurs ont tendance à boire trop frais à l'arrivée. Oui, mais certains coureurs ont tendance à boire peut-être un petit peu trop frais à l'arrivée quand ils ont très chaud. Après, ça peut créer un dysfonctionnement, gastro, un tas de choses.
Ouais, la chaleur. Tu sais qu'il y a des gens qui passent mieux mieux que la chaleur.
Oui, oui, non, mais ça c'est sûr.
Vrai que
ça,
je suis d'accord. Là, il fait pas loin de 40 degrés tous les jours. C'est ouais, chaud.
Un peu moins. 33 pas, degrés aujourd'hui sur le
33% avec la température que.
40 degrés chez toi,
avec l'asphalte. Non, mais il fait chaud aussi ici. Il fait très chaud. Ça peut être une explication, la chaleur. Certains la passent mieux que d'autres.
Il peut y avoir l'explication de la chaleur, mais l'an dernier, on a eu aussi des étapes où il faisait très chaud. Au niveau du Tour de France, chaud. C'est toujours au mois de juillet, vous avez toujours des étapes où il va faire très chaud.
Oui.
Si à chaque fois qu'il fait chaud... Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas expliquer par la chaleur un résultat collectif.
Oui, il y en a un qui peut effectivement
prendre un coup de chaud. Il y en a un qui peut avoir des problèmes, qui va être moi-même, mais pas d'un seul coup tous.
Ou
80% de l'équipe. Il y a quelque chose qui va pas dans la démonstration. Là.
Il y en a quelques-uns en revanche qui supportent bien la chaleur. C'est le cas de Tony Galopin qui nous a encore bluffé aujourd'hui à tel point que je t'ai posé la question. Est-ce qu'il peut devenir un coureur de grand tour capable de viser le classement général sans dire la victoire dans le Tour de France, Cyril? Mais Galopin une nouvelle fois au contact des leaders et de tous les grands champions. Est-ce que tu es bluffé par les performances de Tony ou pas plus que ça?
Bluffé. Non, pas, c'est un coureur que je suis, et pour les raisons que vous connaissez, que je suis depuis qu'il est cadet, parce que je l'ai même vu gagner des courses en cadet, donc vous voyez, à côté des temps. Bon, tout simplement parce que je connais bien son père, je connais bien ses tontons, Alain Guy, et que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention sa progression, que ce soit au niveau junior, après au niveau des espoirs, et puis au niveau professionnel. Il a une progression tous les ans, il monte un petit cran. Bon, cette année, il a encore, par rapport à l'an dernier, monté un peu.
En perdant
cran.
Quelques kilos, ce que tu nous disais tout à l'heure dans le direct. Et ça, c'est important en montagne.
Voilà,
hein, c'est
donc capital. J'ai vu quelque part dans une déclaration où il avait pratiquement 1 à 2 kilos de moins que les autres années. Un petit cran de plus, un tout petit peu de points en moins, lui permet de passer sur des étapes qui, pour l'instant, lui conviennent. Une montée sèche comme hier. Bon, il n'y a quand même que 5 km de dur hier. Donc là-dessus, il est capable de passer. Aujourd'hui, il faut quand même se dire, à part le départ qui a été très vite, mais bon, il n'était pas dans le vent, il était dans les abris. Après, la course s'est calmée. Aspin s'est monté tranquille, moins vite que dans l'échappée. Et la montée du Tourmalet, à part le pied, s'est montée à la vitesse des hommes de tête qui étaient partis quand même déjà, qui étaient partis au bout de 60 km. Donc, on n'a pas eu de bagarre dans la montagne aujourd'hui. Donc, quand vous êtes en grande condition physique, que vous savez gérer, que vous avez le mental, la motivation, une place au général, et que vous avez envie de durer à ce niveau-là, eh bien, vous arrivez à passer. Et même si il avait décroché, on va dire, sur les deux ou trois derniers kilomètres, et qu'il ait perdu 25 ou 30 secondes dans la descente, de toute façon, il rentrait. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas surpris. Rappelez-vous l'an dernier...
Si demain, il termine avec les meilleurs au plateau de Bail, là, tu serais surpris.
Ah oui.
Tu vas faire une polémique, oui. Là.
Comment?
Tu feras une polémique comme Froome?
C'est quoi ça, ton truc là?
Mais non, mais tu fais une polémique sur Froome, sur le
j'ai
fait.
J'ai pas fait de polémique, j'ai posé des questions.
Oui, mais t'as posé des questions, mais bon. Poser des questions.
Donc
que posé,
demain, s'il est en haut, alors là, on pourra reconsidérer la chose.
Très bien, Luc. Ça peut devenir un coureur de classement général, Tony Galopin.
Peut-être dans l'arrivée là, il faut voir avec l'avenir, avec l'expérience des grands tours et quand.
Il en a l'expérience des grands tours.
Oui, mais dans les il est jeune encore, donc je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre. Mais déjà, il a appris beaucoup. Il est dans une équipe entourée de gens vraiment techniquement qui lui apprennent beaucoup et au niveau de la tactique de course. Mais bon, comme le disait Cyril tout à l'heure, il a des tontons qui connaissent bien la course et il a toujours été dans une famille vélo.
Mais
je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas surprenant de le voir là parce que c'est un coureur qui a la classe. Alors après, de là à jouer le classement général du Tour de France, c'est tout autre chose. Mais de le voir aujourd'hui, si tu veux, arriver en tête sur l'arrivée avec les meilleurs comme Chris Froome et tout, et de passer le Tourmalet dans les conditions dans lesquelles il a passé le Tourmalet, chapeau quoi. Ouais. Chapeau. Je m'y attendais pas, hein, franchement, je m'y attendais pas.
Thierry, un petit mot sur Galopin.
Je suis comme Luc, je suis agréablement surpris. C'est vrai que, comme disait Cyril, d'une année à l'autre, eh ben, il progresse et il va très vite.
N'oubliez pas qu'il a gagné quand même une classique Coupe du Monde à Saint-Sébastien.
Oui, Saint-Sébastien.
Que l'an dernier, il va chercher le maillot jaune dans une étape de montagne et que l'étape qu'il gagne, il sort quand même dans un petit col à quelques kilomètres de l'arrivée.
Petit col, tu l'as dit.
C'est pas un as-broc dans les bosses, il a failli gagner Paris-Nice cette année en plus. Ouais, hein. Et dans Paris-Nice, quand il largue Kwiatkowski porte, il est là quand même dans école.
Oui, mais tu le disais toi aussi qu'il était peut-être limité dans les grands cols, dans les grands cols pyrénéens, ou à alpestre. Donc une grande étape, demain on verra, parce qu'il y a eu la répétition aujourd'hui, mais comme tu as dit, c'est monté au train, à part le pied du col, c'est monté au train, mais dans le groupe il restait une quinzaine, une vingtaine, passé un moment, et il était toujours là, c'est quand même super.
Attendez, je vais plus loin que ça, aujourd'hui il rentre dans les 15 meilleurs mondiaux. Pour moi, il fait partie des toutes compétitions confondues. Il est dans le top 15, voire dans le top 10.
Septième en tous les cas au classement général du Tour de France ce soir, Tony Galopin avec un retard de 4 minutes 33. Il devance de deux places Warren Barguil qui a un petit peu rétrogradé en termes de chronométrique puisqu'il a il est arrivé sur la ligne avec un tout petit peu de retard, mais il s'accroche Warren Barguil dans la descente du Tourmalet. Il nous a fait forte impression. Il a pris tous les risques. Il a failli se prendre une vache plein fer. Il a failli aussi se prendre une voiture, mais il a réussi à retrouver le peloton maillot jaune. Donc 9e ce soir au classement général à 6,44. Et puis Pierre Roland qui effectue un beau rapproché, puisque Pierre Roland était également dans le groupe maillot jaune. Il est ce soir 14e général. S'il n'avait pas perdu autant de temps la première semaine, il serait dans le top 10 largement. Il est à 13 minutes 57. Voilà pour nos trois Français sur les cadeaux comptés.
Hier soir, on parlait des vachettes pour arrêter Froome. Ben aujourd'hui, on a vu les vachettes.
Oui, mais c'est Barguil qui a failli les prendre.
Oui, parce que Froome, lui, c'était franchement dangereux.
Ouais. Ouais. Sauf que les vachettes, elles sont passées après Froome.
On n'était pas bon dans le chrono.
Je les ai même vus dans les vachettes.
C'était trop rapide. Le maillot jaune.
C'était costaud les vachettes quand même, Thierry.
C'est là
pour toi, c'est des vachettes, mais
non, c'est des vaches. C'est des vraies vaches.
Bonne vache. Allez, on se quitte quelques instants. On revient pour la suite de nos débats dans quelques instants. Vous savez que demain, un invité surprise sur les routes du Tour. Enfin, il sera pas sur l'étape, il sera sur l'étape d'après. Ah bon? Ton ami Lens? Is back.
Ah oui, d'accord. Lens, oui, pourquoi mon ami?
Eh oui. Allez, à tout de suite. On en parle dans un instant.
Mon ami.
Dans l'intégral Tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Toujours à Cotteret ce soir au terme de la 11e étape du Tour de France, remportée par Rafał Majka, le Polonais de la formation Tinkoff Saxo, coéquipier d'Alberto Contador. Une étape qui n'a rien donné au classement général, puisque vous le savez, Chris Froome n'a pas été attaqué et qu'il conserve donc son maillot jaune avec beaucoup d'avance sur Van Garderen et sur Quintana. On espère évidemment qu'il va se passer des choses demain, on en parlera dans un instant. Demain, je vous le disais, donc la visite sur les routes du Tour, mais avec une journée d'avance du petit mouton noir du cyclisme français, du cyclisme mondial plus exactement, et pas petit, c'est évidemment le grand méchant loup, Lance Armstrong, qui fait son retour sur les routes du Tour, 10 ans, me semble-t-il, après avoir gagné le Tour 2005, cette victoire qui, comme les 6 autres, lui a été retirée par les organisateurs, par l'UCI. Lance Armstrong est donc de retour à l'occasion d'une opération, le Tour One Day Ahead, en faveur de l'association Cure Leukemia, donc pour qui lutte contre la leucémie. Un retour médiatique. Demain, il y aura peut-être plus de journalistes, plus de motos, photographes et reporters devant la roue d'Armstrong que devant celle de Chris Froome, qui va pourtant disputer l'étape clé de ces montagnes pyrénéennes. Alors, tout à l'heure, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, était présent sur l'étape. La présence de Lance Armstrong sur les routes du Tour, voilà ce qu'il en pense.
Je serai à sa place. J'irai dans un autre pays, passer mes vacances. Mais je pense que la façon dont il a trompé tous les amateurs de sport, tous les amateurs de cyclisme, ce garçon aujourd'hui n'a pas à être au bord des routes.
Voilà, Lance Armstrong qui n'a pas à être au bord des routes ou sur la route plus exactement. Voilà l'avis du secrétaire d'État au sport. Qu'en pense Jean-René Bernaudot, le manager de la formation Europcar, qu'on a rencontré ce matin? Voilà son avis sur la présence d'Armstrong.
Je trouve qu'il c'est malhonnête de sa part. Je pense que ça me gêne un peu qu'il revienne sur les lieux du crime. Aujourd'hui, Armstrong, il va dire que voilà. Mais aujourd'hui, il y a une décennie qui s'appelle la génération Armstrong, la décennie Armstrong, qu'il a incarné cette décennie avec tout ce que ça engendre. Moi qui suis dans un registre formation, école amateur avec un sport études, on a souffert beaucoup et aujourd'hui je trouve qu'il y a un peu d'indécence de revenir sur les lieux du crime.
Voilà, avis a priori unanime des gens du vélo ou même des instances dirigeantes du sport français comme Thierry Braillard. Cyril.
Moi, je pense qu'il y a une forme de provoque, hein, mais Lance Armstrong a toujours été dans la provoque en règle générale. Et là, effectivement, on est un petit peu dans ce registre-là, en s'appuyant bien sûr sur une œuvre caritative. J'ai presque envie de dire, plutôt que de revenir, comme dit Jean-René, de revenir sur les lieux du crime quelques années plus tard, il avait qu'à tout simplement faire un gros chèque à cette œuvre caritative.
Mmh, bah, il n'a plus beaucoup de sous, tu sais que...
Oh, vous inquiétez pas, il a
un gros procès qu'il attend dans quelques semaines où il pourrait perdre beaucoup, beaucoup de plumes. Luc, ton avis sur la présence d'Armstrong demain? Est-ce que tu es choqué? Est-ce que tu trouves ça indécent, comme le disait Jean-René?
Bah, écoute, j'emploierai les mêmes propos que Cyril et Jean-René. Voilà, c'est revenir sur les lieux de son passé... En ayant, c'est vrai, trompé
un petit peu. C'est vrai, c'est un garçon sur lequel tu n'avais jamais eu de doute, il me semble, de rappeler, non?
Ben écoute, tout le monde peut se tromper, je veux dire. Tout le monde peut se tromper. Moi, j'ai aucun doute sur forme aujourd'hui. Et j'espère que mes propos d'aujourd'hui seront les mêmes demain et qu'il n'y aura rien sur forme. Voilà, après, comme je te dis, la vie, elle est faite qu'à un moment donné, on ne détient pas non plus toute la vérité. Donc aujourd'hui, il a payé pour ses méfaits. De revenir sur le Tour de France, je crois que c'est quand même provocateur par rapport au cyclisme en règle générale et par rapport aux enfants et aux écoles de cyclisme et tous ceux qui travaillent pour le cyclisme et pour le bien-être du vélo.
Il ne revient pas sur le Tour de France, hein, c'est une étape en avant, mais enfin évidemment sa présence, Thierry, va quand même un peu pas handicapé, mais mettre le voile sur l'étape de demain.
Ça fait bouger la presse, comme tu dis, la presse sera là-bas, focalisée sur ses
et
dires,
pas que la presse, hein, l'opinion publique aussi est très intéressée par le retour d'Armstrong.
Moi, franchement, ça fait le buzz, comme on dit. Il fait ce qu'il veut, il a payé, faut pas non plus. JR qui Jean-René Bernodeau qui dit il revient sur le crime. Il a tué personne, faut arrêter. Mmh. Il a payé. Moi j'aurais préféré il a fait du mal au cyclisme. J'aurais préféré qu'il paye en activité. Ça j'ai toujours dit. C'est franchement stupide d'avoir attendu et j'ai l'impression qu'on a attendu qu'il prenne sa retraite pour le descendre. Comme par hasard, le lendemain de la retraite, paf, les dossiers sont sortis. Moi, je veux bien qu'il y ait
Il y en a certains qui sont sortis avant, mais.
Mais bon, il y en a d'autres qui ont mis le pied dessus.
Thierry, tout avait été dit avant.
Mais sauf que l'Union nationale. D'accord, non, mais
on va pas refaire le débat autour de
On avait le même débat qu'hier. On s'interrogeait, mais on peut que s'interroger. On peut pas accuser sans preuve non plus.
Ouais, ouais. Très bien. Donc, toi, t'es pas choqué plus que ça?
Non, c'est lui donner de l'importance. C'est tout. Ouais. Voilà, okay, le cyclisme avance sans lui et il s'emporte mieux encore. Tiens, j'allais dire aussi bien, non, mieux encore.
Allez, les paris, on va parier sur l'étape de demain, messieurs. Donc, 12e étape avec l'ascension du plateau de Bayeux. On accueille
les paris RMC Tour de France.
Il est là, Benji.
Oui, salut, messieurs.
Que l'on retrouve.
Ah, Benji, ça faisait longtemps.
Oui, bravo, Lucho.
Tu sais, depuis, je suis toujours là, moi.
Il était en vacances, Benji, mois de juillet.
Pas vraiment, mais.
Alors, Benji, je suis ravi que
Lucho ait entendu cet après-midi. Tu l'as vu cet après-midi. Merci, je t'ai entendu.
Il était de retour cet après-midi. Alors, mon Benji, on est au classement. Donc, moi, je suis toujours lanterne rouge, mais ça ne changera pas.
Lucho, maillot jaune. Thierry, maillot vert. Virginie, maillot à pois.
Maillot à pois pour Virginie.
Personne n'a gagné aujourd'hui, non?
Qui est magnifique sur le hashtag RMC Live en maillot à pois, ça lui va vraiment.
Ça me va bien.
Ouais. Ah ouais, t'es magnifique. Alors, Benji, les cotes donc pour l'étape de demain, étape Rennes dans les Pyrénées avec l'ascension du plateau de Bayeux pour finir.
Et Virginie va être déçue puisque c'est Froome qui est largement favori de 25 devant Quintana 6 et Contador 15. Moi, je vais jouer Cocorico, je vais tenter Pierre Roland, cote de 30.
Pierre Roland, cote de 30 pour Benji. Cyril.
C'est un peu compliqué là. Hein. C'est-à-dire que où on joue.
Tu as 15 secondes.
C'est vrai que c'est compliqué. Où on joue regroupement au pied du col et à ce moment-là, c'est Froome Quintana qui vont jouer.
Oui,
où on joue l'échappée de loin. Bon, moi je ne vais pas jouer l'échappée de loin, je vais jouer Quintana.
D'accord, Quintana, parce qu'il faut continuer à rêver et Cyril continue à rêver. Thierry.
Et là, c'est vraiment compliqué.
Tu as 5 secondes.
Oui, bon.
4, 3,
2, 1. Je dirais le lieutenant Richie Porte.
Ouais. Richie Porte, pour
toi. Tellement
ouais,
débile ouais, ce qui... tour, il est tellement débile ce tour que qu'ils sont capables bon. De le faire.
Ok, Lucho.
Allez, Valverde.
Alejandro Valverde pour.
Il y a combien, Menji? Ouais,
alors, Porte, c'est 50 pour Guy et Valverde, c'est 28.
Voilà, d'accord.
Très bien. Et avec Virginie, parce que je sais ce qu'elle va jouer, on va jouer Chris Froome.
Hein. Bah, elle va jouer Chris Froome, oui, bien sûr.
Moi aussi, tu vois. Bah, j'aimerais bien juste une fois gagner 2 points pour être pas à moins de 3
points.
Bah
oui, bah, je m'en doute. Bah, joue hein comme moi tous les soirs, ouais, et tu finiras bien par gagner.
Je vais gagner des points rouges, des points rouges. Très bien. Benji, t'as donné qui, si je m'en
j'ai donné Roland, Pierre Roland.
T'as donné Pierre Roland. C'est très bien. Eh ben, nous verrons demain. Merci, Benji.
Ciao tout le monde.
.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà Virginie, je te laisse des garçons chauds comme la braise pour la suite et sur voilà, les éditeurs, évidemment.
Lucio et Bourgui avec moi jusqu'à 20h30, bien sûr pour le 32-16 sur Twitter, le hashtag RMC Live, vous leur demandez tout ce que vous voulez. Ensuite, ce sera l'heure du foot. Patrice Haddad, le président du Red Star promu en Ligue 2, sera notre invité. Puis c'est Safet Susic, la légende du PSG, nouvel entraîneur d'Evian Tonon Gaillard qui sera avec nous à tout de suite.
RMC Intégral Tour.